Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants, La Presse et Le Devoir. Au programme, Je suis les mains de Loïc. Ados, leurs émotions revues et corrigées. Et Entre Nations. Bonne écoute!
Je suis les mains de Loïc. Un texte de Marie-Ève Moras, paru le 15 mai 2023 dans La Presse. En 2021, La Presse a relaté le parcours de Loïc Bidal, qui, atteint d'une maladie dégénérative rare, avait fait tout son secondaire à l'hôpital de Montréal pour enfants. Il s'agissait d'une première. Un jeune homme formidable, une leçon exceptionnelle de courage, source d'inspiration, de détermination et de résilience. Loïc n'avait pas laissé les lecteurs indifférents. Il poursuit sa route au cégep avec, toujours à ses côtés, sa mère. Un pronom indéfini peut-il contenir tout l'amour d'une mère? À la manière dont Annick Pilon emploie le « on » pour parler de ce que son fils et elle font au quotidien, force est d'admettre que oui. L'automne dernier, on avait un cours à 8 h le matin. Je me levais à 5 h, j'arrivais ici à 6 h, parce que ça me prend 1 h pour préparer Loïc. Je partais à 7 h pour qu'on ait le temps de se rendre, mais là, on a un super bel horaire. Atteint du syndrome de Morquio, Loïc a besoin de soins constants. À sa majorité, il a déménagé de l'hôpital de Montréal pour enfants, où on lui faisait l'école dans sa chambre, à un CHSLD de la Chine. Il étudie maintenant en technique de l'informatique à raison de 2 cours par session. S'il a dû s'habituer à vivre en CHSLD, il a aussi dû apprendre à retourner à l'école. Il a fallu que je m'habitue au rythme, à me déplacer et à attendre d'être de retour à la maison si je veux me reposer. Ce sont des choses que je n'avais pas vécues depuis le primaire, dit Loïc. Le primaire, là où tout a basculé pour la famille. Loïc a dû subir une trachéotomie, est devenu paraplégique, n'est plus jamais rentré à la maison. Mais voilà que Loïc approche de la vingtaine et va maintenant au cégep, comme bien d'autres. Annick Pilon est-elle là chaque fois qu'il a un cours? Elle rit de bon cœur, ne répond pas. Oui, dit Loïc. Le matériel que Loïc utilise dans le cadre de ses cours a dû être adapté. Je suis les mains de Loïc, explique Annick. Dans un récent cours, c'est elle qui a tenu le tournevis pour monter et démonter un ordinateur. Son fils lui donnait les instructions. S'il devait y avoir une urgence médicale, que, dans le pire des cas, la trachéotomie de Loïc s'obstruait, elle saurait quoi faire. Ainsi, tous les cours sont faits à 2. Ils ont aimé leur prof de philosophie l'an dernier. Annick Pilon est aussi conductrice. La première année, c'est en transport adapté qu'ils allaient au cégep. Or, il y avait souvent des retards, si bien que mère et fils ont parfois dû attendre de longues heures pour faire le court trajet entre le cégep et le CHSLD. Des heures à tuer, pour à peine une 20aine de minutes de route. « Combien de fois j'ai pleuré ?» demande Annick à Loïc. « Pas beaucoup, » répond son fils. « Plus tard, » elle relatera cette fois où, face à un transport adapté qui n'arrivait pas, Loïc et elle sont retournés au café du cégep pour attendre. « Je suis allé au comptoir et j'ai dit, « Je vais prendre une bière », dit-elle en riant. L'attente est chose du passé, Loïc a maintenant son propre véhicule adapté, payé avec l'argent récolté grâce à une collecte de fonds organisée pour venir en aide à la famille quand il a déménagé à Montréal il y a plus de 10 ans. Pouvez-vous l'écrire que c'est l'Uniprix de Buckingham qui l'avait organisé? Demande Annick Pilon. Aujourd'hui, dit-elle, l'élan de générosité de la communauté fait partie intégrante du cheminement scolaire de son fils. je n'ai pas de backup. Jusqu'à tout récemment, Annick Pilon était enseignante suppléante en Outaouais, d'où la famille est originaire. Depuis que Loïc est au CHSLD, elle vit à Montréal et travaille dans une SAQ. En plus de son travail, elle accompagne son fils au cégep 4 jours par semaine. « Si ma mère est malade, je n'ai pas de backup », dit Loïc, non sans emprunter au langage de son domaine d'études. Quand son fils va quelque part, Annick Pilon doit être présente, mais assure qu'elle n'est pas une mère castrante. « Il a 19 ans, je ne gère rien, c'est lui qui choisit ses affaires », dit-elle. Loïc gère ses affaires, mais aussi celles des autres. Il est trésorier de l'association étudiante du cégep André Laurendeau. Son président, Charles Clavert, passe justement par hasard dans le stationnement de l'établissement. Annick et Loïc croisent Charles Clavert, président de l'association étudiante à leur arrivée au cégep. Loïc s'est présenté aux élections et on s'est rencontrés quand il a été élu, raconte Charles. Quand on parle d'argent, Loïc est carré dessus, rigole-t-il. L'association étudiante, dit Loïc, l'a aidé à se faire des amis. Et oui, sa mère doit l'accompagner au party. Le cégepien est aussi membre de Polyorbit, une société technique de Polytechnique Montréal. On participe à des compétitions nationales sur des technologies spatiales, explique Loïc. L'école de génie est dans sa ligne de mire. Sa mère dit qu'elle chérit les moments passés avec lui. « Je n'aurais pas voulu que ma mère m'abandonne, » dit-elle pour expliquer son dévouement. Par un bel après-midi de mai, Annick Pilon est assise dans une classe sans fenêtre. À son côté, Loïc effectue un exercice de programmation. Leur session de cégep est presque terminée. C'était « Je suis les mains de Loïc », un texte de Marie-Ève Maurras, paru le 15 mai 2023 dans La Presse. Ados, leurs émotions revues et corrigées. Un texte de Sylvia Galipo, paru le 19 mars 2023 dans La Presse. Qu'on se le dise, l'adolescence, c'est des montagnes russes émotives. Imprévisibles, mais pas forcément impénétrables. Parce que parfaitement saines et surtout totalement normales. Même si on semble l'oublier depuis quelques années. Un nouvel ouvrage pratico-pratique fait le point. Stratégie de survie incluse. Dit autrement, oui, vos adolescents vivront des crises, auront des désespoirs, probablement des peines d'amour. Ils vont pleurer, se chicaner avec leurs amis, traverser toutes sortes d'émotions fortes, existentielles, au cube et souvent dans le tapis. Si vous lisez ces lignes, c'est sans doute parce que vous le savez et le vivez déjà. Les yeux au ciel, c'était de la petite bière. Bonjour, les portes qui claquent et les répliques qui fusent. Ce n'est pas nécessairement agréable, on vous l'accorde, mais c'est comme ça. Chez les adolescents, les émotions fortes ne sont pas en option. Ce ne sont pas des bugs, écrit la psychologue clinique et autrice Lisa Damour, accessoirement mère de 2 adolescentes de 12 et 19 ans, dans son livre « The Emotional Lives of Teenagers, Raising Connected, Capable and Compassionate Adolescents » en librairie depuis peu. Objectif : expliquer le fonctionnement du cerveau des adolescents en ébullition, démystifier les réactions émotives, souvent genrées, elle s'y attarde avec autant de nuances pour le public non genré, et distinguer le normal, aussi épique soit-il, du plus inquiétant. En un mot, outiller les parents. Exemple concret à profusion. Celle qui signe régulièrement des textes dans le New York Times, à qui l'on doit une populaire balado « Ask Lisa », des ouvrages de référence sur le sujet, dont « Untangled, Guiding Teenage Girls », et qui a plus de 25 ans de pratique derrière la cravate, en remet ici parce que, visiblement, le message ne passe pas. Tout particulièrement depuis 10 ans, note-t-elle. Quelque part au passage, on s'y mit à avoir peur d'être malheureux, selon Lisa Damour. Dit autrement, on s'y mit à voir d'un mauvais œil les émotions négatives, à craindre les larmes, bannir la colère, bref, à chercher à prévenir à tout prix la tristesse. Et vénérer un peu trop le bonheur. Chez nous tous en général, et avec les adolescents en particulier. Une réflexion qui tombe à pic, tout particulièrement après cette pandémie qui a été incroyablement douloureuse pour les adolescents, rappelle-t-elle en entrevue avec la presse. Or, attention, danger, nous dit-elle. Pourquoi, au fait? Avec une infinie délicatesse et toutes les nuances qui s'imposent, la psychologue exprime sa pensée. Parce qu'en agissant ainsi, on les prive d'occasion d'apprendre à se gérer. Faut-il le préciser? La tristesse fait partie de la vie. Shit happens, comme disait Shakespeare, et malgré toutes nos bonnes intentions, nos jeunes n'y échapperont pas. Aussi bien les équiper, non? Avant d'y venir, pourquoi? Pourquoi la mélancolie, les hauts et les bas de nos émotions ont-ils aujourd'hui si mauvaise réputation? Toujours aussi nuancée, la psychologue constate que la santé mentale est de plus en plus méprise, confondue ou associée, dans le langage populaire du moins, à une question de bien-être. Comme si, pour avoir une saine santé psychologique, il fallait être dans un état de béatitude constant. Et la commercialisation du bien-être et de tous les produits dérivés du bien-être, dit-elle, vend l'idée qu'il est possible de prévenir la détresse. Or, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Et cela laisse miroiter des attentes irréalistes. Et autant de déceptions. Outre l'industrie du bien-être, la psychologue se demande si l'augmentation notable des prescriptions de médicaments dans les dernières années n'y serait pas aussi pour quelque chose. Certes, précise-t-elle, le Prozac sauve assurément des vies, là n'est pas la question, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si tout cela n'a pas contribué à perpétuer cette idée qu'on devrait tous, nous et nos enfants, s'épargner cette réalité, qu'être humain, c'est aussi vivre des douleurs émotionnelles, écrit-elle en guise d'introduction. Vous écoutez « Ados, leurs émotions revues et corrigées », un texte de Sylvia Galipo, paru le 19 mars 2023 dans La Presse. Alors, si la santé mentale, ce n'est pas le bien-être, c'est quoi? D'un point de vue psychologique, la santé mentale, c'est avoir des émotions qui concordent tout en sachant les gérer sans se blesser, selon Lisa Damour, psychologue et autrice. Mais encore, son livre commence précisément sur un exemple concret, tiré d'une conversation avec une amie pour illustrer ce concept fondamental s'il en est. Inquiète à cause d'un fils déprimé à la veille d'un déménagement dans une autre ville, cette amie a fait appel à ses lanternes. Sa réponse, par une question. Votre fils est-il déprimé tout le temps ou a-t-il des hauts et des bas? Si c'est le cas, je pense au contraire que sa déprime est un signe de saine santé mentale. Morale, inutile de vous alarmer si votre adolescent est triste à propos de quelque chose un peu de temps, mais vous devriez vous alarmer s'il est triste à propos de tout pendant beaucoup de temps. De la théorie à la pratique en 6 conseils. Dès l'âge de 11 ans, après une douce et bienheureuse période de latence, le cerveau des jeunes se remet en marche. Il s'y produit une véritable petite révolution qui va s'étirer jusqu'à l'âge de 24 ans. Les neurones se multiplient à la vitesse grand V. Les connexions se font et se défont avec les conséquences émotives que l'on sait. 6 conseils pour gérer votre ado et l'aider à se gérer. Être un parent présent et constant. Votre adolescent a une peine d'amitié? Inutile de pleurer avec lui, il a besoin d'un parent présent à ses côtés. D'écoute, une vraie écoute, et d'empathie. C'est tout. D'ailleurs, il n'est pas rare que les jeunes déversent sur leurs parents leur litanie de malheur et semblent ensuite se porter plutôt bien, quoiqu'ils nous gâchent nos journées au passage. On parle ici d'externalisation, une technique bien connue des psychologues, assez efficace, merci. Tout cela pour dire qu'en restant malgré tout solide, vous lui envoyez le message suivant, ô combien constructif. J'ai confiance en toi. Tu vas trouver une stratégie pour traverser cette épreuve. Une leçon pour la vie. Écoutez, mais pas ruminer. Certes, il est bon de parler, de verbaliser ses émotions. Cela fait souvent passer le méchant, c'est démontré. Mais parler de ses émotions fait du bien jusqu'à temps que ça n'en fasse plus, signale la psychologue clinique et autrice Lisa Damour. Gare à la rumination des pensées négatives, quoi. Elle suggère, en cas de trop-plein, de proposer une diversion. Reparlons-en demain. D'ici là, si on allait au cinéma, les bons vieux classiques, on parle ici du Roi Lion, font aussi des miracles, paraît-il. Écoutez quand vient le temps. Vous avez décidé que le temps des confidences, c'était à l'heure du souper. Grand bien vous fasse, mais il y a fort à parier que votre jeune, lui, choisira l'instant précis où vous souhaitez enfin vous assoupir pour se confier. Saisissez le moment. D'autres préfèrent encore les textos ou se livrent sans crier gare au détour d'un feu rouge en auto. Étirez le voyage et profitez-en pour écouter toujours. Témoignez de l'empathie, mais sans plus. À noter, vous pouvez poser des questions, mais ne donnez surtout pas votre avis, sauf si on vous l'a explicitement demandé, mais ça, vous le savez sans doute déjà. Lire le non-verbal. Certes, certains se confient, mais beaucoup s'expriment aussi autrement. Apprenez à les lire. Certains adolescents cherchent du réconfort physique, tout simplement, tandis que d'autres s'expriment davantage par les arts. D'autres, enfin, se confieront, certes, mais ailleurs et pas à vous. Avoir un jeune qui se confie, c'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule possibilité. Notre job, en tant que parent, c'est d'accompagner tant que la stratégie aide à gérer et à s'adapter. Surtout, ne pas le prendre personnel. Tout cela est bien beau en théorie, mais très complexe en pratique. Quoi qu'il arrive, ne le prenez pas personnel. Il se confie ailleurs à un voisin, une connaissance. C'est de l'ordre des choses que l'adolescent devienne plus secret, plus indépendant. Il est en train d'apprendre à se gérer sans vous, rappelle la psychologue, en soulignant que le cerveau émotif atteint généralement et en moyenne sa maturité après 14 ans. En d'autres mots, le pire se joue à 13-14 ans. C'est généralement le plus intense en début d'adolescence. Quand s'inquiéter? 3 choses à surveiller. Des émotions négatives qui s'étirent dans le temps, des émotions qui nuisent au bon fonctionnement du jeune et l'empêchent d'aller en classe, de voir ses amis, etc. Quand la gestion des émotions nuit à la santé de l'adolescent, on pense ici à des comportements dangereux, une consommation de substances, etc. Le cas échéant, on n'hésite pas à consulter un professionnel de la santé. Cela dit, conclut Lisa Damour, oui, il y a des adolescents fragiles, mais la plupart sont capables de supporter un certain niveau de détresse et de naviguer au travers. C'était, Ados, leurs émotions revues et corrigées, un texte de Sylvia Galipeau, paru le 19 mars 2023 dans La Presse. Entre nations, une chronique de Louis Cornelier, parue le 3 juin 2023 dans Le Devoir. J'aime bien la récente publicité du gouvernement du Québec qui met en vedette les 11 nations autochtones d'ici. Réalisée par la cinéaste Mohawk Sonia Bonspiel-Boileau, la pub, très belle, affirme qu'entre nations, on gagne à se connaître. En conclusion, en s'adressant à la nation québécoise, une jeune autochtone dit doucement « Maintenant, tu nous vois, et c'est le début de quelque chose. Souhaitons-le. » Selon un sondage léger mené en 2020, 73% des Québécois ont une bonne opinion des Premières Nations. Pourtant, 45% des sondés considèrent que les relations entre les Québécois non autochtones et les Premières Nations sont mauvaises. On voudrait que ça marche. Peut-on en conclure, mais on constate que ce n'est pas facile. En 1979 déjà, dans son ouvrage « Destin d'Amérique », l'anthropologue Rémi Savard notait le malaise. « Le fond des choses, écrivait-il, c'est que notre relation à l'Autochtone a toujours été et demeure ce qu'il y a de plus trouble en nous. Il importe, continuait-il, d'admettre que notre propre différence passe par une reconnaissance également claire et précise de la leur. Je trouve ces résultats de sondage et cette épigraphie de Savard dans « Québécois et Autochtones, Boréal 2023, 280 pages », un ouvrage collectif sous la direction de l'historien François-Olivier Doré et de la politicologue Geneviève Naughton. La grande question que pose cet ouvrage est la suivante. Comment donc articuler le récit historique du Québec comme nation minoritaire et comme société dominante dans l'espace de ses frontières avec la construction par les Premières Nations de leur propre historiographie? Ne plus oublier ou invisibiliser les Autochtones en faisant l'histoire du Québec, passe-t-il par leur pleine intégration au récit national, par des histoires parallèles, les leurs? Les 10 Premières Nations et les Inuits n'ont pas la même histoire, et la nôtre, ou par des histoires imbriquées en dialogue? Les Québécois ont pu croire, par exemple, qu'il suffisait de remplacer l'exclusion par l'inclusion pour témoigner de leur souci de justice. Les Autochtones, dans cette logique, accède au statut de Québécois à part entière. Or, ce n'est pas si simple. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, refuse cette solution. « Je ne suis pas, qu'on se le dise, ni Canadien, ni Québécois. Je suis Innu. » Ce serait donc lui faire violence que de l'intégrer de force à la nation québécoise dans un souci de reconnaissance. Les Québécois indépendantistes, de la même manière, ne veulent pas qu'on dise d'eux qu'ils sont des Canadiens, même s'ils réclament en toute justice la reconnaissance de leurs droits de citoyens par le Canada. Par ailleurs, comme le note l'anthropologue Gilles Bibeault, même si Picard n'est ni Québécois ni Canadien, cela n'empêche pas de considérer que le peuple des Innus auquel il appartient a pleinement participé à la construction du Québec. Il doit donc avoir une place dans cette histoire. L'historien Brian Gettler, qui souligne justement que les événements clés de l'histoire ne sont pas les mêmes pour les Québécois et pour les diverses nations autochtones, suggère donc l'écriture d'histoires distinctes, tout en insistant sur la nécessité du dialogue. La poète Innu, Marie-André Gilles, convaincue que la collaboration est incontournable entre les uns et les autres, plaide avec enthousiasme pour une histoire nationale du Québec qui inclut vraiment l'histoire des Premières Nations. Elle se dit surprise de l'attachement des Autochtones du Québec au Canada et de leur opposition à la souveraineté du Québec, alors qu'elle voit tellement de possibilités d'alliances potentielles entre le Québec et les Premières Nations. Le grand moment de cet ouvrage collectif est l'entretien avec le sociologue et historien Denis Delage, mené par François-Olivier Doré. Pour Delage, l'histoire de la relation entre les Québécois et les Autochtones est à la fois une histoire coloniale faite de rapports de force au détriment des seconds et une histoire humaine riche de rencontres culturelles. Les emprunts européens aux Autochtones sont nombreux et ont permis aux colons de développer une saine critique de leur culture d'origine. Les Autochtones, selon Delage, ont aussi beaucoup pris des colons européens, notamment l'écriture et la musique religieuse. Faire l'histoire de ces relations, explique l'historien, c'est reconnaître ces saines interactions, mais assumer aussi la responsabilité d'un héritage et d'une mémoire d'injustice commise à l'endroit des Autochtones, tout en évitant le stérile mode accusatoire. Il importe de faire, d'écrire, de raconter l'histoire de nous tous, conclut Delage. J'aime le « nous tous » qui dit l'unité dans la diversité. C'était, en tonation, une chronique de Louis Cornelier parue le 3 juin 2023 dans Le Devoir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.